France Musique. France Musique, les grands entretiens. Thomas Verkracht.
Je m'appelle Thomas Hades. Je suis né à Londres le 1er mars 1971. Je suis compositeur, pianiste, chef d'orchestre. J'ai 50 ans.
Bonjour Thomas Hades.
Bonjour Thomas.
Thomas Hades, merci infiniment de nous consacrer ce temps pour les grands entretiens sur France Musique. Thomas Hades, pianiste, compositeur, chef d'orchestre. Vous êtes parmi nous dans ce studio de la Maison de la Radio car vous avez dirigé l'Orchestre Philharmonique de Radio France le 8 octobre dans un programme qui vous ressemble, où vous croisiez vos propres œuvres et celles de Leo Janáček. Thomas Hades, vous venez d'ailleurs régulièrement en France à vous parler un petit peu français. Je crois que l'on peut dire que vous êtes francophile. Quel est votre attachement à la France ?
C'est l'empathie, je sais pas, j'ai toujours aimé la France, la langue, lire en français, l'art français. Alors, je sais pas, c'est difficile à réduire, mais toujours c'est seulement ce que je préfère en étranger.
Il remonte à quand votre attachement à la France?
Le premier endroit, quand j'avais peut-être 5 ou 6 ans, dans le Midi, c'est la première fois que j'ai vu un lézard. Pour un anglais, c'est quelque chose de...
D'exotique.
C'est plus qu'exotique, c'est comme quelque chose d'autre monde. Maintenant, j'espère dire que c'est nous qui sommes étranges. sur notre île classée.
Thomas Hades, pour vous, la France, c'est avant tout des souvenirs d'enfance?
Oui, c'est ça, beaucoup. Parce que ma mère, elle, est historienne de l'art, surtout le surréalisme. Alors, elle était toujours à Paris. Elle connaît beaucoup de gens dans ce monde. Et pour ça, c'est une sorte de capitale de ce genre d'art-là. Alors, je vois Paris un peu à travers les lunettes surréalistes.
Quand vous alliez dans le Midi, quand vous étiez enfant, c'était pour des vacances ou vous avez habité là-bas?
Ah non, juste pour des vacances, mais c'était avec des amis de mes parents. Et on était là pendant tous les étés.
Et qu'est-ce qui vous a tant séduit dans la culture française, justement?
Comment dire j'aime que Debussy a dit, quand quelqu'un a dit pourquoi cette harmonie, pourquoi ces notes, il a dit mon plaisir. Alors ça commence avec ça pour moi. Et une sorte de raffinement sonore et une façon de s'exprimer qui, je trouve plus puissante, que c'est un peu masqué parfois. On voit, c'est pas toujours direct. Ça peut être parlé à travers les manières classiques, comme Berlioz, ou quelques autres gestes.
C'est une histoire de son, le français?
De sensibilité, je dirais, plus que ça. De ressentir avec le son.
Votre nom même a l'air de venir de France aussi.
Non,
il y a un accent grave sur le E de
C'est vrai, mais c'est là pour montrer aux Anglais qu'il y a deux syllabes. C'est toujours prononcé d'origine Hades. Mais l'origine étymologique est syrien, juif syrien.
Alors justement, à propos de ces origines juives syriennes, c'est quelque chose dont on trouve assez peu de traces dans les documents que j'ai pu consulter pour préparer ces entretiens. Quel rapport vous entretenez avec cet aspect de votre histoire ?
Alors, comme beaucoup des histoires comme ça, c'est très compliqué. Il y a beaucoup qui est perdu, qui est caché. C'est normal pour une origine comme ça, mais dans la mémoire de, par exemple, mon père, nous, les Hadès, habitaient toujours à Alexandrie, où ils avaient été pour une centaine d'années. Mais aussi, comme toujours, les communautés comme ça, ils avaient des passeports, des papiers anglais, français, suisses. Et c'était bien sûr crise de Suez. Il fallait partir.
Et là, dans ce que vous nous dites, votre père a habité à Alexandrie ?
Oui, quand il n'était pas à l'école en Angleterre, il allait à Alexandrie. Nous avons eu une maison là.
Et bien justement, avec votre maison à Alexandrie, vous avez quel souvenir du Moyen-Orient et de l'Égypte notamment ?
Moi, je suis jamais allé en Égypte parce que tout ça s'est complètement évanoui. Tout le monde qu'ils ont connu complètement. On parlait de ça, mes grands-parents avaient beaucoup de mémoire de ça. Mais c'était comme une sorte de naufrage. Comme toujours.
De naufrage, c'est-à-dire?
À Londres, chez nous, il y a beaucoup de choses qui appartenaient à cette autre maison à Alexandrie, n'appartenaient pas au monde anglais, au monde de Londres. C'est des choses d'un autre monde.
C'était deux mondes totalement différents. Il n'y avait pas de pont entre les deux.
Si, le pont était nous, le pont était l'histoire et mes parents. Mais comment dire, c'est comme c'était une maison assez grande en Alexandrie. Ils ont dû se dépêcher pour
partir.
Oui, c'est ça. C'était une révolution. Peut-être ce son de l'exil un peu. Souvent, ça stimule pour un créateur, moi, un artiste. Souvent.
Ça veut dire que ce détachement de la terre d'Alexandrie, à l'origine, c'est quelque chose dont on peut retrouver peut-être des échos même dans ce que vous faites, dans votre travail ?
C'est un sens d'un monde évanoui, perdu, un monde qui est quelque chose comme une sorte de paradis perdu.
Et du coup, c'est quelque chose que vous regrettez de ne pas avoir pu notamment aller régulièrement dans cet endroit ?
C'était pas seulement l'endroit, c'était l'époque. Qui est évanoui, je ne veux pas y aller maintenant. Ce ne serait pas pour moi. Et je suis très heureux à Londres, à Paris, à Los Angeles, où j'habite parfois. Mais ce son de quelque chose qui est perdu, c'est un mystère. Vraiment, c'est un chimère, peut-être. Mais un musicien, un compositeur, travaille avec l'air. Qui nous entoure.
L'ambiance générale.
Oui, les sonorités ne sont pas... On ne peut pas les toucher comme un sculpteur. Mais c'est une réalité qui, pour moi, c'est là, elle est là comme architecture. On peut créer, recréer les choses qui, pour ainsi dire, n'existent pas.
Donc la musique, c'était aussi peut-être l'occasion de recréer ce monde de chimères que vous...
Oui, sûrement. Parce que quand on est enfant, on voit un enfant, pour ainsi dire, musical, c'est qu'il y a le monde qui l'entoure, il y a la langue, peut-être le dessin, mais la musique, c'est comme si ce monde tactile, ce monde réel, n'est pas assez pour l'enfant. Il y a quelque chose d'autre dont il a besoin pour exister. Vraiment, si c'est un enfant musical. Et pour moi, c'était sans ça, je ne pourrais pas exister. Sans ce chose qui était invisible, mais pour moi, était nécessaire.
Et vous ne pouviez pas faire une autre forme artistique. La musique, elle s'est imposée rapidement.
C'était pour moi presque avant de parler.
Déambule morose, le crépuscule est grandiose, mais peut-être un beau jour faudra-tu trouver. trouver avec moi les paradis.
Alors Thomas Sadès, dans vos œuvres et dans votre univers créatif en général, vous êtes pour le coup beaucoup plus empreint de culture britannique. Et comment elle se matérialise, cette culture made in England?
Quand j'étais enfant, nous avions les pièces de Shakespeare dans des très jolis petits livres que pour un enfant, c'était encore un monde magique, complètement. Et nous lisions à haute voix, en famille, les pièces. On a passé des journées très contentes à faire ça. Mon préféré, c'était le Midsummer Night's Dream, parce que les féeries et la tempête, and the tempest. Encore parce que peut-être c'était un monde qui n'était pas tout à fait réel. Il y avait un monde politique, mais en contraste, un monde où le vent parlait, les plantes presque parlaient. Peut-être le germe qui a devenu quelque chose. Une trentaine d'ans plus tard.
Ça veut dire que tout jeune, vous aviez déjà envie de retrouver ces chimères, mais est-ce que vous en aviez conscience ou c'était quelque chose de naturel?
Non, c'était naturel. Non. Mais quand je cherchais un sujet pour mon deuxième opéra, ça fait beaucoup de sujets que j'avais même un livret, deux livrets. Le moment où je me suis dit pourquoi pas la tempête. Et immédiatement, on dit, oh non, c'est impossible, on ne pourrait jamais, blablabla. Bla bla. Mais c'était trop tard, et déjà le germe était là.
Quand vous avez fait votre opéra sur la tempête, vous vous êtes souvenu tout de suite de ces soirées, de ces moments que vous avez passés en famille?
Je ne les ai jamais oubliés. Et ce sont de magie, c'est un royaume que je peux peut-être recréer.
Vous êtes né à Londres le 1er mars 1971. Vous êtes donc un vrai londonien?
Oui, je dirais oui. Et c'est pour ça que c'est un peu différent que d'un anglais.
Qu'est-ce qu'il y a de différent entre un londonien et un anglais?
Je dirais qu'on est plus habitué à une sorte de internationalisme. C'est comme ici à Paris peut-être. C'est pas exactement la même chose que d'être français tout court, je sais pas, peut-être. Ou berlinois, je sais pas. Quand je suis à l'Angleterre, dans la campagne, par exemple, ou même Pays de Galles ou à l'Écosse, je me sens à l'étranger un peu.
Alors que Londres, c'est chez vous?
Vraiment, oui.
Quel souvenir vous avez de votre jeunesse à Londres?
J'avais la chance, nous avons toujours assez grand jardin. Alors, on pourrait se perdre dedans. En enfant, c'était assez grand pour... Je sais pas, peut-être c'est pas assez grand, mais on pourrait se cacher.
Pour un enfant, ça l'était en tout cas.
Oui. Et aussi, on était près de grands espaces verts à Londres. La campagne, pour moi, c'est très important, mais en idée et en quantité, pas trop.
C'est comme un concept, il vous fallait une espèce de nature, mais oui. Un petit peu artificielle.
Ouais, c'est pas artificiel. La nature, pour moi, c'est sainte, c'est très important. Mais un peu comme je suis pas alors fermier, comme pour eux, la nature n'est pas sainte, c'est seulement le métier. Mais pour moi, j'ai peut-être une sens romantique ou presque religieuse pour la nature, oui.
C'est-à-dire de vision romantique pour la nature?
Oh, j'ai confiance en la nature. Je crois que la musique, ce que je fais, c'est un modèle, la nature. Tous ces mystères.
Et vous nous avez dit que dans le jardin de vos parents, c'était très grand, que ça faisait presque comme un labyrinthe, ce goût des chimères et de se perdre dans des choses irréelles. Ce côté du labyrinthe aussi, c'est quelque chose que l'on peut peut-être retrouver aussi dans votre univers créatif maintenant?
Oui, je crois. Il y a une question des choses qu'on ne peut pas complètement saisir. dans un jardin quelconque, mais un jardin, mon peintre préféré, Watteau. Et on pense de ces jardins, il y a des mystères, des choses qu'on peut un peu comprendre, les choses qu'on ne saisit pas. Dans un jardin anglais, on pense à la lierre.
Le lierre,
sous le lierre, under the ivy. C'est une image enfant, on pourrait se cacher là. Et maintenant, je peux regarder, si je suis avec des gens, je ne veux pas parler, je veux penser de ma musique, je peux regarder le lierre et m'imaginer me cacher là.
Avoir une part d'invisible et ne pas tout comprendre, c'est aussi partie importante aussi pour vous?
Oui, toujours, oui. Parce que je sais que n'importe ce que je fais pour comprendre, pour être analytique, il va toujours être là quelque chose que je ne comprends pas complètement.
France Musique, les grands entretiens de Thomas Hadès.
Thomas Hadès, est-ce que dans la maison familiale, il y avait beaucoup de disques?
Oui, c'était comme les talismans pour moi, les disques comme ça. Si vous me présentez maintenant un de ces disques, c'est comme un des objets comme quasi proustien. Seulement le dessin, les couleurs, pour moi, c'est lié complètement à la sonorité des disques. Mais c'était les choses comme flamenco, les vieux ténors, mon père aime ça, du jazz, un peu 60s folk,
Peggy musique Seed, traditionnelle,
style hispan, traditionnel mais avec une électronique, j'adore.
Est-ce qu'il y a eu certains disques qui étaient des grands chocs pour vous et qui le sont toujours?
C'est pas des chocs, mais quand on est enfant, on dit je veux celui-là encore, mais celui-là pas. J'adorais Paul Robeson. Je n'aimais pas Bob Dylan. Alors, si on mettait Bob Dylan, je dirais non. Je veux Paul Robeson.
J'ai cru comprendre aussi que vous aviez une passion pour un certain enregistrement de chants séfarades.
Ah oui, très important pour moi. Magnifique. C'est Rachel. Elle n'a fait qu'une disque. Je ne sais pas ce qui se passait. Si elle est toujours en vie, je ne sais pas. J'ai essayé de trouver. Mais cette voix magnifique, je l'écoute beaucoup, toujours. J'adore ces mélodies et la voix qui n'est pas, pour ainsi dire, raffinée, même c'est un peu âpre, je sais pas, mais c'est tellement passionnant.
En tout cas, c'était l'aspect voix humaine qui vous intéressait là et qui vous a séduit,
oui,
tout de suite.
C'est ça. Mais ça, je savais pas vraiment des origines juives de mon nom, que j'avais peut-être 25 ans, alors c'est assez tardif. Personne ne parlait de ça parce que c'était pas important, c'était laissé dans le passé. Mais ce disque seulement, si j'avais pensé, c'était un... It was a clue.
Ça faisait tout revenir d'un seul coup.
Oui, oui, c'est complètement les chansons sephardiques, grecques, syriennes. What do you call North Africa? Maghreb.
Maghrébin.
Maghreb, oui. Et mon nom vient de ces pays-là, Hadès, et ce n'est pas rien. Vraiment.
Thank you.
Thomas Hadès, si on parle un petit peu de vos parents, Timothy Hadès, votre père est poète et traducteur, et notamment du français. Est-ce que votre père vous a guidé dans un certain amour de la littérature, justement? Vous lisiez Shakespeare le soir en famille?
Oui, mon père a de très spéciaux intérêts. Il adore les lipogrammes, comme Perec. Il a fait une traduction de tous les sonnettes de Shakespeare en anglais sans « e ».
En anglais sans « e » ?
Oui.
Comme
oui.
Perec ?
Oui, tous les sonnettes. Oui,
d'accord.
Oui. C'est édité, publié. Et il adore le Victor Hugo, très important pour lui. Desnos, Cassou, tous ces poètes français. Alors, oui, mais quand j'étais enfant, c'était toujours les classiques de littérature britannique, avant Lewis Carroll, Shakespeare, Dickens.
Votre père a traduit Victor Hugo, il a même traduit Mallarmé en anglais, ce qui n'est pas une mince affaire. Est-ce que, lorsque vous étiez jeune, vous connaissiez la poésie française?
Quand j'étais écolier, oui.
Et c'était quelque chose qui était important pour vous?
Le Comte de Lille, mon poète préféré français. Je sais pas pourquoi. J'aimais, parce qu'on a lu les poètes romantiques, Baudelaire, Rimbaud, Hugo. Le Comte de Lille, j'aimais le plus parce que il y avait une sorte de géométrie que je trouvais sympathique.
De géométrie, c'est-à-dire?
Classique, je sais pas, un peu.
D'équilibre?
D'équilibre de. Pas un froideur exactement, mais c'était it was calm and you know I enjoyed that.
À propos de littérature britannique qui ont bercé votre enfance, vous nous avez parlé quasi instantanément de Shakespeare et de Lewis Carroll. Est-ce qu'il y avait d'autres noms qui ont été importants pour vous à cette époque?
Mon Dieu,
j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup.
Oui, c'est trop pour. Je les ai tous, même les philosophes. Anglais, je sais pas pourquoi j'avais une phase quand je lisais les
sur la philosophie.
La philosophie anglaise qui est assez sèche.
Et dans Lewis Carroll, qu'est-ce qui vous a plu?
Lewis Carroll, ça c'est un monde. L'imagination est complètement sans bornes, mais aussi les mathématiques. Et il y a cette sorte d'analytique, mais qui est en même temps totalement absurde. Impossible. Et j'adore ce paradoxe analytique absurde. It's never been done so beautifully. Aussi les poèmes comme Hunting of the Snark, c'est le plus grand poème dans la langue anglaise, je crois. It's just devastating.
Thomas Hadès, de l'autre côté du miroir, dans ce premier volet des grands entretiens, qui s'achève avec un extrait de la bande originale du film Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton, signé évidemment par Danny Elfman. On se retrouve demain pour un deuxième volet des grands entretiens avec le compositeur Thomas Hadès, dans lequel on évoquera notamment une intrigante rencontre avec le peintre Francis Bacon. Les grands entretiens avec Thomas Hadès, prise de son Emmanuel Armin, mixage Valérie Lavalard, attaché de production Marie Ferdinand, une réalisation de Gilles Blanchard.
À réécouter sur francemusique.fr.